Les par actualités. Bonjour mes amis, c'est Clotilde Saï au micro de Canal M, bien sûr, pour vous présenter C'est par actualité du 8 novembre, avec en titre aujourd'hui les douches en CHSLD. François Marcotte souhaite poursuivre le combat. Une cinquième maison Martin Mat pour les traumatisés crâniens inaugurée à Québec. Plus de 100 groupes communautaires mobilisés pour lutter contre le sous-financement. Une dizaine d'élèves forment dorénavant la gang d'action bénévole. Et puis, atteint d'une paralysie cérébrale, un enfant se fait éjecter d'un rassemblement de M. Trump. Et aussi deux entrevues aujourd'hui avec Jean-Marie Lapointe. D'abord, le porte-parole de la campagne de promotion annuelle du réseau de l'Action bénévole du Québec, et également avec Geneviève Labrec, directrice du regroupement pour la trisomie 21. Son histoire a ému tout le Québec. François Marcotte, atteint de sclérose en plaques, a réussi à amasser plus de 30 000 $ lors d'une campagne de sociofinancement en mai dernier pour lui permettre de prendre 3 douches par semaine dans le centre d'hébergement de soins de longue durée où il habite. Son but étant atteint, l'homme de 43 ans entend poursuivre son combat au nom de tous les résidents des CHSLD. C'est un texte de Camille Simard. « Je suis heureux d'avoir réussi personnellement, mais je suis aussi heureux d'avoir ouvert un front », affirme François Marcotte, dans sa chambre du centre d'hébergement du Boisé à Québec, où il habite depuis juin 2015. François Marcotte peut maintenant compter sur une préposée au privé pour l'aider à se doucher 3 fois par semaine. Ce n'est pas le cas des autres résidents dans sa situation qui n'ont droit qu'à un bain par semaine. C'est pourquoi il interpelle le gouvernement libéral afin que les besoins des résidents soient mieux ciblés. Au printemps dernier, le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, s'est attiré de nombreuses critiques en affirmant que les soins d'hygiène dans les CHSLD étaient adéquats dans la majorité des cas et que l'hygiène pouvait s'exercer sans bain. La clientèle est hétérogène dans les centres d'hébergement. Il y a des gens pour qui un bain par semaine, c'est peut-être suffisant, mais il y en a d'autres, comme moi, dit M. Marcotte, où c'est insuffisant. Alors je demande qu'on évalue les gens, les besoins. Ce n'est pas aux usagers à s'adapter aux besoins du système. François Marcotte, qui est aussi invité à l'Assemblée nationale, mercredi, demain, à titre de porte-parole pour la Société canadienne de la sclérose en plaques, il veut, entre autres, témoigner de la place des jeunes adultes en centre d'hébergement. Et en plus de mener ce combat politique, M. Marcotte profite d'une nouvelle liberté. Grâce à l'argent amassé avec la campagne de sociofinancement, il a pu se procurer un nouveau véhicule adapté. Alors cet été, j'en ai profité pour aller voir ma famille. Sortir de Québec me donnait un peu de liberté, a-t-il raconté. M. Marcotte, qui achève aussi d'écrire un roman grâce à un système de reconnaissance vocale qui lui permet de se servir d'un ordinateur. Une cinquième maison Martin Mat, le pavillon Patrice Villeneuve, a ouvert ses portes sur le boulevard de Lormière à Québec. Elle a été inaugurée le 7 novembre. Occupant les 2 premiers étages d'un nouvel édifice de 5 étages, elle peut héberger pour la vie 30 personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique lourde. La résidence, gérée par l'organisme Milieu de vie TCC, a accueilli ses premiers résidents en juillet 2016. La cérémonie d'inauguration a notamment été marquée par le témoignage de Rémi Ouellette, résident atteint d'un traumatisme crânio-cérébral. Pour certains qui vivaient en résidence pour personnes âgées, de se retrouver avec des gens de leur âge, c'est toute une amélioration, a-t-il souligné. La grande majorité des traumatisés crâniens vivent en effet en CHSLD. Les 4 autres maisons du réseau se trouvent à Laval, Sherbrooke, Blainville et Saint-Prosper en Beauce. Et 2 autres maisons s'ajouteront au réseau en 2017 à Coaticook et à Trois-Rivières. Pour des informations sur le traumatisme crânio-cérébral, le TCC, on peut visiter le site de la Fondation Martin Mat. Et aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Jean-Marie Lapointe, porte-parole de la campagne de promotion annuelle 2016-2017 du Réseau de l'Action bénévole du Québec. Bonjour, Monsieur Lapointe.
Bonjour, Catherine.
Alors, je suis ravie de pouvoir vous parler aujourd'hui. Cette campagne, faut-il le dire, elle a été lancée depuis le 11 octobre dernier. Hein. Mais avant qu'on parle directement de la campagne, est-ce qu'on pourrait un peu plus, s'il vous plaît, nous dire quelle est la mission du RABQ, c'est-à-dire, je le rappelle, le Réseau de l'Action bénévole du Québec?
Bien, premièrement, c'est de promouvoir le bénévolat,
c'est ça, hein?
Qu'il soit dans le domaine du sport, du loisir, la santé des gens, et pas juste une semaine, parce que oui, il y a une semaine de l'action bénévole, mais c'est durant toute l'année. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un lancement avec une campagne pour dévoiler les différents visages, d'où le slogan « 1001 visages, 1001 actions » pour montrer que du bénévolat, ben, ça se fait à longueur d'année. Puis on va vous présenter 11 bénévoles qui proviennent de différents milieux et qui vont nous partager leurs engagements et leurs passions.
Est-ce que vous connaissez ici l'organisme Vues et Voix et la radio Canal M? J'imagine que vous êtes déjà venu.
Ben oui, oui.
À plusieurs reprises.
Ben
vous êtes un habitué. Et vous êtes vous-même bénévole, évidemment, hein, depuis fort longtemps. Et je pense que tout ça est à l'origine aussi de votre acceptation, bien évidemment, en tant que porte-parole. Hein.
Ben, en fait, c'est comme un prolongement ou c'est un naturel, comme on dit en bon québécois, c'est un bon fit que de me proposer de m'impliquer comme porte-parole pour faire la promotion du bénévolat, mais c'est parce que j'en fais depuis plusieurs années, puis j'en fais aussi, et c'est comme ça que j'ai connu votre station de radio avec le défi sportif Altergo comme
c'est
porte-parole,
ça.
Donc on a eu à faire plusieurs entrevues ensemble et c'était tout à fait naturel de dire oui, de pas m'embarquer comme porte-parole ou même comme j'aurais été un des visages de l'action bénévole, de ne pas le faire, ça aurait été presque illogique parce que ça fait déjà partie de ma vie. Puis en même temps, ben, c'est plus pour montrer à quel point que ben tout le monde peut faire du bénévolat à raison de plusieurs heures par semaine, de quelques fois par année. On a tous quelque part en nous, une cause qui nous touche, c'est plus facile à ce moment-là de dire oui puis de s'impliquer.
Est-ce que vous avez beaucoup de personnes handicapées qui font également du bénévolat?
Énormément.
Énormément.
Moi, j'en vois beaucoup. Ben, évidemment, c'est d'un naturel de voir des gens qui ont des limitations aux défis sportifs faire du bénévolat, mais je remarque que beaucoup de ces gens-là font du bénévolat, oui, aux défis sportifs, mais dans d'autres projets ou d'autres actions avec lesquelles moi-même je suis impliqué. Et c'est toujours, on dirait que c'est souvent les mêmes qui reviennent. C'est un peu comme, on dit souvent, c'est les personnes souvent très généreuses qu'on voit aux mêmes causes.
Oui.
On peut pas, je pense qu'on peut pas différencier les deux. Puis avec le défi sportif, ben, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui donnaient un peu de leur temps. Mais il y a plein d'autres causes avec lesquelles je suis impliqué. Puis c'est souvent les mêmes visages que je revois. Donc j'ai l'impression que ça doit pas être contagieux de faire un petit peu d'action bénévole.
Et comment inciteriez-vous des personnes, handicapées ou non, à faire du bénévolat, justement, peut-être pour que ce ne soit pas toujours les mêmes?
Ben, en fait, c'est parce que j'ai l'impression qu'on perd de vue qu'il y a un gain énorme. Quand dans la vie de tous les jours, que ce soit quand on se fait un café le matin, quand on lit le journal, quand on va au gym, c'est qu'on reçoit et on a un gain quasi immédiat lorsque on fait une activité ou on achète un bien. On donne quelque chose et on reçoit. T'sais, on fait un sacrifice dans notre vie pour donner du temps à telle activité et on reçoit automatiquement. Moi, je pense que c'est une idée qu'on doit aussi changer, un petit peu préjugé comme quoi, oh mon Dieu, on est donc dans l'abnégation, on s'oublie complètement quand on fait du bénévolat puis on fait un sacrifice humain. Bon, c'est peut-être plus dans notre tradition judéo-chrétienne de penser qu'on doit s'oublier complètement pour les autres, mais c'est complètement faux parce que dans le bénévolat ou dans l'action bénévole, il y a un gain et pas mal plus rapide qu'on le pense. Les gens pensent que ça vient seulement au bout de plusieurs mois, mais il s'agit qu'on aille participer à une soupe populaire, qu'on aille justement au défi sportif Altergo ou peu importe la cause qui nous touche. Dès qu'on y passe un peu de temps, non seulement on rencontre des gens, on s'évite de se centrer sur son propre petit nombril, on lève les yeux, on sent évidemment qu'on fait partie d'une belle confrérie et il y a beaucoup de gains. Donc, c'est juste ça, je pense qu'il faudrait arriver à changer cette fausse idée de croire qu'il faut tellement être généreux, tellement être dans l'abnégation. C'est faux.
Autrement dit, on reçoit quasiment autant, si ce n'est plus, que ce qu'on donne.
Bien, ça, ce petit miracle d'avoir l'impression de recevoir plus que ce qu'on peut donner, c'est souvent quand on est dans la cause qui nous est chère et qui résonne en nous. Parce que, habituellement, quand on commence à regarder l'heure, c'est peut-être parce que le temps est long. Puis ça, ben, c'est peut-être pas la bonne cause, c'est peut-être pas la bonne job, c'est peut-être pas dans la bonne relation.
Oui, puis dans ces cas-là, il faut peut-être pas se sentir coupable. C'est pas grave, on va juste trouver autre chose.
Oui, mais on a le droit d'être heureux.
Mais c'est ça.
Puis on a le droit d'avoir un sentiment de recevoir puis d'être payé autrement. Parce que oui, c'est pas payant le bénévolat, mais c'est enrichissant.
Oui.
Alors, trouvons une cause, une activité qui nous enrichit sans nous donner l'impression de nous appauvrir en termes de sacrifice ou de temps qu'on doit accorder à telle activité ou à telle personne. Parce que ça peut être aussi de faire de l'accompagnement avec une personne âgée, une personne en situation de limitation. Bon, l'important, c'est de donner un peu de son temps. Puis comme je disais tantôt, ben dans les causes avec lesquelles je suis impliqué, j'ai l'impression de recevoir beaucoup plus que ce que je peux donner.
Eh bien, écoutez, c'est comme toujours, c'est toujours très, très inspirant de vous entendre, Jean-Marie Lapointe. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la campagne de promotion annuelle 2016-2017 qui s'intitule « Le bénévolat, les 1001 visages, 1001 actions ». Les 11 bénévoles dynamiques et inspirants, comme c'est écrit dans le communiqué de presse, on va pouvoir les découvrir où et quand exactement?
Ben, premièrement, pour répondre à votre question et aussi découvrir ces personnes inspirantes, le site du rabq.ca, rabq.ca, je pense que déjà là, on va avoir une bonne idée de
D'accord.
ce qui nous attend pour la prochaine année. Ça va répondre à toutes les questions. Et on a aussi une bonne idée de qui sont ces belles personnes dynamiques et inspirantes, comme vous le dites si bien.
Et comme vous êtes le formidable porte-drapeau, et merci beaucoup, Jean-Marie Lapointe.
Ça fait plaisir. Bonne
Allez,
journée.
Au plaisir de vous reparler sur les ondes. Salut.
Merci. Bye-bye. Bye.
Les prochains jours seront très actifs pour les gens des organismes communautaires de la région de l'Estrie. Grève, mobilisation et revendications sont au programme. À l'instar de plus d'un millier de groupes sociaux au Québec, ils vont suspendre leurs activités en tout ou en partie dans le but de dénoncer ce qu'ils considèrent comme un sous-financement chronique. Mardi, dans leur région, les organismes vont manifester à leur manière. On parle par exemple de grève symbolique réduisant les activités au maximum, explique Claudel Cyr, directrice du ROC de l'Estrie. À Sherbrooke, on a prévu des manifestations devant les bureaux des députés fédéraux. On a aussi prévu un rendez-vous au Carrefour de Solidarité Internationale où Lynn Lecourt, directrice de promotion handicap Estrie, et Guy Boucher, directeur de Famille Espoir, témoigneront de leur expérience en ces temps de restrictions budgétaires. En Estrie, plus de 100 groupes sont mobilisés, assure-t-elle. Nous voulons faire ce qui a eu lieu l'an dernier, les 2 et 3 novembre, quand les organismes communautaires ont débrayé. Alors ça va de Farnham à Lac-Mégantic, ça touche l'ensemble des organismes. C'est un front commun communautaire, nous n'organisons pas de marche dans les rues. Cette mobilisation des organismes communautaires s'annonce sans précédent en Estrie, mais aussi partout ailleurs au Québec. On estime à plus de 1000 le nombre d'organismes communautaires qui vont suspendre leurs activités au cours des prochains jours à travers la province. Plusieurs d'entre eux vont carrément fermer leurs portes mardi et mercredi. En signe de protestation, rapporte la presse canadienne. Et mercredi, un grand rassemblement régional se tiendra à Sherbrooke. Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne utilitaire nationale. Engagez-vous pour le communautaire. Et puis, une nouvelle qui fera certainement plaisir à Jean-Marie Lapointe. Une dizaine d'élèves du Collège Rivier ont poussé un peu plus loin leur implication au sein de la communauté. Ils forment dorénavant la gang d'action bénévole. Cette initiative, mise de l'avant à la rentrée, a été encadrée par le coordonnateur des ressources bénévoles au Centre d'action bénévole de la MRC de Coaticook, Olivier Girondier. Déjà, les jeunes sont au boulot. Ils ont notamment aidé des personnes ayant un handicap intellectuel ou physique à jouer aux quilles, par exemple. Ils ont aussi fabriqué des bombes à bain dans le cadre d'une activité de financement de la Maison des jeunes de Coaticook. La lecture d'histoire à des élèves du primaire, la cuisson de plats pour le service de dépannage alimentaire, la préparation de boîtes de collecte de dons alimentaires et le tri de vêtements pour la friperie font également partie de leurs tâches. Il existait déjà une belle collaboration entre le Collège Rivier et le CAB, puisque depuis plusieurs années, l'ensemble des élèves vient aider à récolter des dons lors de la Grande Guignolée ou lors des cuisines collectives des fêtes. Alors, quand le collège nous a approchés, nous n'avons pas hésité une seconde. Ce projet est très intéressant car il stimule la participation citoyenne et la relève bénévole au sein de notre collectivité, insiste M. Girondier. Les élèves volontaires s'initient ainsi à raison d'un mercredi après-midi sur deux jusqu'en décembre. Elle est directrice du regroupement pour la Trisomie 21. J'accueille aujourd'hui Geneviève Labrec. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, notre sujet est le suivant, les efforts de sensibilisation des organismes et les ressources accessibles face à l'annonce de diagnostics que font les médecins. Je vous avouerai que le sujet m'a un peu étonnée, mais pas surprise, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que je me suis dit, mais enfin, il ne faut quand même pas leur apprendre à annoncer la nouvelle aux parents. Puis l'autre côté me disait, ben oui, certainement.
C'est bien ça. Nous, ce que les parents nous signalent souvent, il faut dire qu'en tant qu'organisme communautaire, on n'a pas toujours les histoires heureuses. On a souvent les histoires où ça se passe pas bien. Et on entend encore des histoires d'horreur face à l'annonce du diagnostic. Par exemple, fait au téléphone, quand un des deux parents est parti chercher un repas à la cafétéria, les infirmières se dépêchent de le dire à la mère. Donc, il n'y a pas de bonne méthode, mais il y a des méthodes à éviter, c'est certain.
Mais il doit même y en avoir des bonnes aussi, quand même.
Effectivement. En fait, il y a une ligne de conduite ministère qui est établie, les médecins doivent essayer de faire le plus possible, mais on s'entend que des conditions gagnantes ne sont pas toujours réunies et que des fois, il y a des médecins qui sont moins à l'aise que d'autres dans les annonces de diagnostic, même si dans leur métier, ça fait partie de leur réalité.
D'ailleurs, maintenant, excusez-moi Geneviève de vous interrompre, mais je me posais d'ailleurs la question, c'est que le métier de médecin, à part peut-être s'il est chercheur et s'il est toujours dans son laboratoire à faire des recherches, mais le métier de médecin implique, on s'entend, un travail de communication avec le public. Oui. Est-ce que ça leur est enseigné à l'université?
Il y a un cours à l'Université de Montréal qui s'appelle l'éthique médicale qui leur enseigne. Mais c'est comme dans tout, il y a des personnes qui l'ont plus naturellement que d'autres. Il y a des personnes qui ont des capacités sociales plus que d'autres. Et dans ce cadre de ce cours-là, c'est enseigné par une médecin en génétique. Elle a approché des organismes communautaires, dont le regroupement pour la Trisomie 21, pour venir parler aux futurs médecins de l'annonce du diagnostic et de l'impact de l'annonce a sur les parents. Par exemple, pour nous, dans le cas de la trisomie 21, on l'apprend à la naissance ou 2-3 jours après la naissance et parfois même en cours de grossesse. Donc, il y a un impact sur l'annonce du diagnostic. Souvent, le couple doit faire le deuil de l'enfant parfait et il y a des décisions à prendre et des réflexions, surtout en cours de grossesse. Et ce que les médecins font, vont souvent lire toutes les problématiques. Par exemple, en trisomie 21, là, ça peut passer des pieds plats aux problèmes cardiaques. Ils vont lire toute la liste des choses possibles, imaginables que l'enfant peut avoir. Mais ils ne vont pas donner l'autre côté de la médaille nécessairement. De dire, il y a des parents qui en ont des enfants, puis ça se passe bien. Si vous voulez, on va vous mettre en communication avec eux pour avoir les deux côtés, d'avoir un choix juste et éclairé.
Oui. Et dans ces cas-là, donc, j'imagine que votre rôle, ainsi d'ailleurs que le rôle du travailleur social et ou de la psychologue à l'hôpital, est essentiel, quoi.
Est important parce que souvent les parents, quand ils apprennent ça, ils voient tout de suite les problématiques et il y a un stress important. Surtout en cours de grossesse, il y a des familles qui vont faire des interruptions de grossesse, mais il y a des effets où ça, une interruption de grossesse, ça laisse des traces, ça laisse des marques.
Surtout ça prend un soutien. Oui, bien sûr. Oh là là. Je suis convaincue que bon, c'est une pilule qui est tellement difficile à avaler. J'ai rarement entendu après des gens qui ont des enfants trisomiques. J'ai rarement entendu ces gens-là après se plaindre. C'est clair que c'est inconditionnel, pareil, après. D'ailleurs, je vous entendais, je vous avais eu une très belle expression tout à l'heure, j'imagine que vous l'utilisez souvent, lorsqu'ils comprennent qu'ils n'auront pas un enfant parfait.
Oui, exactement. En fait, c'est le
Mais
deuil de l'enfant
c'est le deuil,
parfait.
oui.
Mais il y a plein d'autres handicaps aussi où c'est le deuil de l'enfant parfait qu'on doit faire. Mais c'est pas la fin en soi. Et ça,
Non,
souvent, les
non.
médecins se protègent en disant tout le côté négatif. Et nous, quand on a des familles qui nous appellent en cours de grossesse ou qui vont sur notre site Internet, qui nous envoient des courriels, souvent, ils veulent savoir, est-ce que je peux avoir d'autres enfants? Est-ce que c'est la fin de ma carrière? Est-ce que c'est la fin?
Ah, c'est
Ils veulent
terrible.
juste avoir l'autre côté pour avoir un choix juste.
Bien
Et
sûr.
souvent, il y a des familles que, même après toutes les recherches, vont décider de faire une interruption de grossesse. Ça arrive. Mais il y en a d'autres qui vont dire, ben, OK, je vais prendre l'enfant. Et il y a des familles, vous savez, que ça fait 5-6 ans qu'ils essaient d'avoir un enfant. Puis là, ils apprennent qu'ils ont un enfant qui a une trisomie 21. C'est des choix, des discussions très, très difficiles à vivre.
Et à ce moment-là, ce sont des discussions que vous avez avec eux, que vous avez, vous les aidez, vous les soutenez.
Nous, en tant qu'organisme, et je sais qu'il y a d'autres organismes aussi qui le font, notamment la PETEL à la Naudière, ce sont des conversations qu'on va avoir avec les familles. S'ils veulent se déplacer, on les accueille aussi, mais c'est tout à fait anonyme. On ne va pas faire de suivi, on ne va pas leur donner leur nom, on ne va pas leur demander nom, numéro de téléphone, courriel.
Oh là là, oui.
On va essayer de faire ça le plus juste possible, sans prendre de position, parce que d'une façon ou d'une autre, ça reste un choix de couple à la fin,
oui.
ou un choix de la femme. Donc, on veut qu'ils puissent avoir les deux côtés le plus juste possible.
Et ne pas poser de jugement.
Oh, pas du tout.
Quoi qu'il arrive.
C'est pas notre rôle.
Non,
et
c'est
ça. Je crois
ça.
Que les travailleurs sociaux et les psychologues dans les centres hospitaliers, on manque un peu de ressources parce que ces familles-là en ont besoin.
Oui.
Souvent, ils vont voir le médecin, ils vont être dirigés par la suite à la maison pendant 2-3 jours, puis là, ils sont tout seuls, ils font leurs propres recherches. C'est pas des discussions faciles.
Non.
Et quand, en plus, par exemple, s'ils commencent à en parler à la famille élargie, les amis, là, les valeurs de tout le monde embarquent là-dedans. Et c'est pas évident.
Non.
Que c'est pas des situations évidentes.
C'est clair. Écoutez, Geneviève, j'aurais pu parler encore avec vous très longtemps. Geneviève Labrec, directrice du regroupement pour la trisomie 21. Ce que je retiens de cette discussion, peut-être pour des gens qui nous écoutent, c'est que s'il vous arrivait ce dont nous parlons en ce moment, ne voyez pas dans le regroupement pour la trisomie 21 des gens qui vont à tout prix vous dire « gardez-le, oui, vous allez voir, c'est fantastique, on va vous aider ».
Non. Hein? Je vous dirais que dans chacune des situations, il n'y a rien de tout noir et de tout rose.
Mais non, exactement.
Il faut voir les deux côtés de la médaille.
Exactement. Geneviève Labrec, je vous remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir de parler
oui,
avec vous.
Pareillement.
Alors, on va se retrouver sur nos ondes d'ici quelques semaines, c'est sûr.
Parfait. Bonne fin de journée.
Au revoir. Merci.
Au revoir.
Actualité nationale et internationale, l'Ontario lance une consultation publique sur un revenu minimum garanti. Le gouvernement ontarien demande l'opinion de la population sur un projet pilote pour instaurer un revenu minimum garanti dans la province. Le public pourra répondre à des questions qui porteront sur les bénéficiaires, le montant et les critères de l'octroi d'un revenu minimum garanti. La consultation s'appuiera sur un document rédigé par un ancien sénateur, Hugh Siegel, qui recommandait un revenu mensuel de 1320 dollars et 500 dollars supplémentaires pour les personnes handicapées afin de remplacer le programme Ontario au travail et le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Selon lui, le projet pilote devrait se pencher sur les effets sur la santé des bénéficiaires ainsi que sur leur vie, leur choix de carrière, leur éducation, leur comportement au travail, les changements à leur nutrition et les impacts sur leur logement. Hugh Siegel, qui croit aussi que le projet pilote ontarien ne devrait pas avoir d'impact négatif sur les personnes et que la participation devrait se faire sur une base volontaire. Le gouvernement a l'intention d'avoir un plan en avril 2017. Une inscription sur une porte d'une toilette non discriminatoire de l'école secondaire Samuel Robertson Technical Secondary School située en Colombie-Britannique fait beaucoup jaser. Non seulement le symbole adopté retient l'attention, mais aussi le message qu'il véhicule ainsi que la leçon d'hygiène que l'on souhaite passer à ses utilisateurs. Alors voilà ce qu'on peut y lire et voir. Peu importe de quelles orientations vous êtes, lavez-vous les mains. Et on peut lire cette phrase sous le symbole montrant un personnage homme-femme ainsi qu'un fauteuil roulant. Plusieurs toilettes non discriminatoires sont présentement accessibles dans les écoles du même district que celle-ci. Et toutes portent le même symbole, une toilette ainsi qu'un fauteuil roulant. Et la Samuel Technical Secondary School a emboîté le pas puisque le symbole commun figure également près de la porte de la toilette en question. L'idée provient d'élèves de l'école secondaire qui ont proposé le symbole dans le cadre d'un projet. Un porte-parole du comité homo-hétéro de l'école a d'ailleurs souligné que le symbole ajoute une touche d'humour, tout en faisant passer le message que la toilette peut être utilisée par tout le monde, sans distinction de sexe. Atteint d'une paralysie cérébrale, cet enfant s'est fait éjecter d'un rassemblement de Donald Trump. Il est à peine âgé de 12 ans, il s'appelle Gigi Holmes. Il a supplié sa mère de le conduire à un rassemblement pour Donald Trump en Floride samedi. Atteint d'une paralysie cérébrale, le jeune homme voulait rencontrer le candidat républicain pour discuter de la façon dont il traite les personnes handicapées. Allison, la mère du garçon, a accepté de faire le déplacement. Une fois sur les lieux, ils ont commencé à montrer des affiches d'Hillary Clinton et à faire l'éloge de la candidate démocrate, d'après les gens qui se trouvaient sur les lieux. Donald Trump a rapidement demandé de faire sortir le jeune homme du rassemblement. Les partisans du candidat républicain, ont commencé à chanter « USA, USA » et à pousser la chaise du jeune homme, Holmes, raconte Allison au Washington Post. « On s'est fait sortir par la sécurité », raconte-t-elle. Trump n'arrêtait pas de dire « sortez-les, sortez-les, sortez-les ». Alors voici la réaction de son enfant après avoir été sorti des lieux, moins de 24 heures après que M. Holmes a été expulsé et harcelé durant le rassemblement en Floride. Le jeune homme de 22 ans a serré la main de Barack Obama, rapporte le Huffington Post aux États-Unis. La situation a donc pris une tournure inattendue parce qu'un journaliste ayant assisté à la scène a appelé l'attaché de presse d'Hillary Clinton pour inviter le petit Holmes, et comme M. Obama était également invité au rassemblement de la candidate démocrate, eh bien, il a pu faire d'une pierre deux coups et serrer la main à la fois de Mme Clinton et de M. Obama. Dans le cadre d'un vaste mouvement de mobilisation du milieu communautaire, oui, on en parle beaucoup en ce moment, le RAM ferme ses portes demain le 9 novembre et invite ses membres bénévoles et partenaires à se joindre à l'équipe de travail pour participer à une manifestation pour faire valoir les revendications des organismes d'action communautaire autonomes. Pour vous joindre à la délégation du RAM lors de la manifestation, rendez-vous au bureau du RAM au 5225 rue Berry, bureau 101, à midi pour un départ en groupe vers le centre-ville. Pour confirmer votre participation à la manifestation, vous devez contacter Mélanie Vanel au 514-277-4401 au poste 111. Alors, la manifestation débutera à 13h à la place des festivals. Le trajet fera une boucle autour de la place des festivals en passant par les rues Sainte-Catherine, Saint-Urbain, René-Lévesque, Robert Bourassa, Cathcart, McGill College, Président Kennedy et Jeanne Mance. Les manifestants sont invités à porter des vêtements de différentes couleurs selon le secteur de l'organisme qu'ils représentent. Pour le RAM, organisme en défense collective des droits, la couleur proposée est le noir. Voilà, ainsi s'achèvent les paractualités en ce 8 novembre 2016 sur les ondes de Canal M. Clotilde Sey au micro et ses camarades qui travaillent fort derrière pour qu'elle ait toutes ces nouvelles à vous donner tous les jours. J'ai nommé Anne-Laure Janson et Jean-Sébastien Laliberté. Merci beaucoup à vous d'être là. Bonne journée et à demain, 11h30.